Bonjour, ici Rémi Giguère. Voici votre bulletin du vendredi 3 octobre 2025. Selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, le plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 aurait contribué à accroître l'influence du secteur philanthropique sur l'action communautaire dans les dernières années en consacrant ce secteur comme partenaire clé du communautaire. Pour le chercheur Maxime Fortin de l'IRIS, une telle consécration pose problème, d'une part parce que la philanthropie est une pratique qui permet aux riches de consolider leur influence sur les politiques et sur la société civile, et d'autre part parce qu'elle compromet l'autonomie des groupes communautaires, en plus d'orienter et d'instrumentaliser l'action de ces groupes. Le président d'élection de la Ville de Québec invite les électrices et les électeurs à vérifier dès maintenant s'ils sont bien inscrits en vue des élections du 2 novembre en se rendant au ville.quebec.qc.ca/élections au pluriel. En date d'aujourd'hui, la liste électorale recense un peu plus de 420 000 électrices et électeurs. Il s'agit d'une augmentation de 2,19% par rapport à la liste électorale de 2021. La Ville de Québec organise une journée d'activités gratuites demain pour souligner l'arrivée et l'installation de nouvelles personnes immigrantes sur son territoire. Cette journée s'adresse aux personnes nées à l'extérieur du Canada et établies à Québec depuis le 1er octobre 2024. Elle a lieu de 12h30 à 17h au Centre de glace Intact Assurance au 999 avenue de Rochebelle. Outre des activités pour toute la famille, des kiosques d'information permettront de s'informer sur les services municipaux et sur les organismes communautaires. Dans le cadre du programme de soutien à la mobilisation pour les conseils de quartier Initiative en faveur de la biodiversité de la Ville de Québec, le conseil de quartier Saint-Roch s'allie avec l'engrenage Saint-Roch pour une journée de plantation d'arbres dans les carrés prévus à cet effet. L'activité se déroule demain de 10h à 16h. Le rendez-vous est à la place de l'Université du Québec, coin de la Couronne et Charest. Les outils et les matériaux seront fournis. Et en terminant ce soir, un groupe de jeunes du Centre Jacques-Cartier, appuyé par l'Association étudiante autochtone de l'Université Laval, organise une soirée festive au centre. Le groupe invite la population à se solidariser aux gardiens et gardiennes du territoire et à leurs alliés qui font des blocages depuis le mois d'avril, afin de limiter la coupe abusive des forêts. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité. La grande masse des hommes vit des vies de calme désespoir, résignation. Voilà le nom qu'on donne au désespoir lorsqu'il est confirmé. On passe de la ville désespérée à la campagne désespérée et l'on doit se consoler avec la bravoure des visons et des rats musqués. Un désespoir stéréotypé mais inconscient se cache jusqu'au cœur de ce qu'on appelle les jeux et amusements humains. Ils n'ont rien de ludique, car ils ont lieu après le travail. Mais c'est une caractéristique de la chasse que de ne rien faire de désespéré. Lorsque nous nous penchons sur la question de savoir ce qui, pour reprendre les mots du catéchisme, constitue la fin dernière de l'homme, en ce que sont les vraies nécessités et les vraies ressources vitales, tout semble se passer comme si les hommes avaient délibérément choisi le mode de vie commun parce qu'ils le préféraient à tout autre mode de vie. Pourtant, ils croient sincèrement qu'ils n'ont plus aucun choix. Mais les natures saines et vigoureuses se souviennent que le soleil se lève neuf chaque matin. Il n'est jamais trop tard pour nous défaire de nos préjugés. On ne peut se fier aveuglément à aucun mode de pensée ni aucun mode d'agir, aussi antique qu'il soit. Ce que tout le monde répète à l'envi ou fait seulement passer silencieusement comme étant vrai, ce jour pourrait demain se révéler faux. Rien de plus qu'une fumée d'opinion que d'aucuns avaient erronément prise pour un nuage porteur d'une pluie fertilisante pour leur culture. Essayez donc de faire les choses que les anciens affirment et que vous ne pouvez pas faire. Vous verrez que vous le pourrez.
L'espérance est un mot qui s'exile dans la chair. Je me souterrai, qui m'emmènera loin. Je chemin souterrain qui m'emmènera loin, loin.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et de la marche. Avant ça, j'ai quelques messages, quelques lectures à partager avec vous. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un film ce soir. C'est à l'église Sainte-Ursule, à Sainte-Foy, à l'église Sainte-Ursule, qui est sur le boulevard Nielsen, à 19h. Le film, c'est « Vivre en grand ». C'est un film un peu dans le style du film « Demain ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, mais c'est le genre de film qui fait du bien parce que on voit plein de gens, c'est sur les jeunes ici, qui mènent des luttes pour les droits humains, pour l'écologie, un peu partout dans le monde. Alors, c'est comme un genre de documentaire, finalement, ou plusieurs documentaires collés ensemble. Et en tout cas, pour ceux qui s'intéressent, c'est un genre de film qui remonte le moral un peu. Alors, c'est ce soir, à l'église Sainte-Ursule, à 19h, c'est à Sainte-Foy, sur le boulevard Nielsen. Aussi, on va parler de marche aujourd'hui. Et je fais un petit retour sur la marche qu'on a eue samedi dernier, la marche pour le climat. Et c'était une journée magnifique et il y avait franchement pas mal de monde. On m'avait dit, j'ai comme compris qu'on était à environ 2000, ce qui est pas mal bon. Et c'est toujours agréable de marcher en groupe comme ça parce qu'on sent pas qu'on marche. Marcher en groupe, c'est comme si le groupe nous entraînait. C'est la même chose pour le vélo. Quand on fait du vélo en groupe, c'est beaucoup plus facile que faire du vélo seul. C'est que le mental ne travaille pas. C'est seulement, on fait juste marcher, puis on suit le groupe. Alors, c'est toujours agréable, puis on fait des rencontres. C'est un moment de rencontre. Alors, c'est ça. C'était samedi dernier. Maintenant, dans mes lectures que j'ai faites cette semaine dans Le Devoir, il y avait dans Le Devoir de lundi, on revient encore sur la fameuse loi là, sur la protection des consommateurs au niveau du pouvoir de réparation des objets. Alors, Équiterre veut éviter un recul sur la garantie de disponibilité en choisissant la réparation. Les consommateurs soulageront leur portefeuille et feront un geste positif pour l'environnement, soutient l'organisation auprès de Québec. Face aux pressions des détaillants réclamant une révision et un report de la nouvelle réglementation sur la garantie de disponibilité, Équiterre demande à Québec de ne pas faire marche arrière, reconnaissant que certaines exigences gagneraient à être clarifiées. Cette loi protège les consommateurs qui dépendent depuis trop longtemps de la bonne volonté des fabricants et des commerçants. Elle vient lever les freins à la réparation pour qu'on puisse enfin garder nos objets plus longtemps, dit Julie-Christine Denoncourt, analyste en réduction à la source chez Équiterre. À compter du 5 octobre, commerçants et fabricants devront informer clairement les consommateurs sur la disponibilité des pièces de rechange, l'entretien et la réparation de leurs produits. Ces règles couvrent tout bien nécessitant le remplacement, le nettoyage ou la mise à jour d'un composant. En l'absence de renseignements, le client devra en être avisé avant l'achat par écrit, en ligne ou en magasin. De l'avis d'Équiterre, qui milite depuis longtemps contre l'obsolescence programmée, cette bonification de la garantie de disponibilité est un grand pas en avant. En optant pour la réparation, les consommateurs verront la différence dans leur portefeuille et feront un geste de plus pour l'environnement. C'est dans Le Devoir de lundi dernier. Alors ça, c'est un bon pas, un pas positif. Par contre, dans Le Devoir de samedi, on dit « Québec fait marche arrière sur l'interdiction de la vente de véhicules neufs à essence. La mesure qui devait entrer en vigueur en 2035 sera remplacée par une cible de 90 % de vente d'automobiles zéro émission d'ici les 10 prochaines années. Alors, on va ouvrir une petite brèche, on va permettre encore la vente de véhicules à essence. Là. Histoire de rassurer les concessionnaires, Québec révise à la baisse ses cibles d'électrification du parc automobile et abandonne tout simplement l'interdiction de vente de véhicules neufs à essence à compter de 2035. Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, en a fait l'annonce vendredi en réunion de caucus, un jour avant qu'une série de marches pour la sauvegarde du climat, la marche de samedi dernier, se tienne partout au Québec. On met fin au mur à mur afin, dit-il, assurant prendre là une décision responsable et équilibrée. Cette mesure, qui sera officialisée par règlement, fera tomber l'interdiction de la vente de voitures polluantes en 2035, mais rajustera aussi à la baisse sa cible de vente de véhicules zéro émission de cette même année. Elle passera de 100 % à 90 %. Comme annoncé en juillet, les véhicules hybrides rechargeables seront inclus dans le calcul des ventes de véhicules sans émission. Les cibles annuelles de vente d'ici 2035 seront, quant à elles, allégées. Aussi dans le Devoir de samedi, il y a eu une série d'articles dans le Devoir depuis quelques semaines. Quelqu'un qui est allé en Afrique voir ce qui se passe au point de vue écologique. Alors, ici, c'est un beau texte environnemental dans le Devoir de samedi dernier. Elle sauve la dernière grande forêt de l'Afrique de l'Ouest, à la frontière ivoiro-libérienne. Le complexe forestier Taï-Grébo-Sapo est l'un des plus protégés de l'Afrique de l'Ouest, malgré la déforestation en l'œuvre dans la région. Et il le doit notamment aux communautés de femmes. Alors, un beau texte avec beaucoup de photos qui nous montre les femmes qui ont œuvré à la protection de cette forêt-là en Côte d'Ivoire. C'est dans la même lignée pour ceux qui vont venir voir le film ce soir à l'église Sainte-Ursule. C'est dans cette lignée-là un peu. Dans le Devoir de vendredi de la semaine dernière, j'en avais parlé rapidement. Un texte intéressant. « Plusieurs dieux, tu adoreras. Avec le retour du religieux dans l'espace public, on gagnerait à se laisser imprégner par les valeurs des religions polythéistes. » Un texte de Régent Bergeron, philosophe. L'auteur a publié « Je veux être un esclave »,« L'école amnésique » ou « Les enfants de Rousseau » et « Homer, la vie et rien d'autre ». Dans l'histoire des idées, on est trop souvent porté à voir les religions monothéistes, à l'exemple du christianisme, du judaïsme ou de l'islam, comme une forme de progrès par rapport aux religions polythéistes qui, péjorativement, sont alors qualifiées de païennes, d'idolâtres ou de dépassées. Pourtant, lorsqu'on compare ces deux systèmes de croyances et de leurs mythologies respectives selon des critères de tolérance, d'ouverture, d'inclusion, de curiosité et de paix, nous n'avons pas le choix de donner la palme aux religions polythéistes. Je m'explique. Les adeptes des religions monothéistes sont convaincus, chacun de leur côté, d'adorer le vrai Dieu, le seul et unique, celui qui aurait été révélé par des textes sacrés dont il serait l'auteur ou à tout le moins le grand inspirateur. Comme l'explique Maurizio Bettini dans son essai « Éloge du polythéisme », il s'agit d'un principe inhérent aux trois grands monothéismes et fondé sur la nature exclusive qui caractérise dès les origines le Dieu d'Israël, un Dieu unique qui n'accepte ni ne supporte l'existence d'autres dieux face à lui ou en dehors de lui. Devant cette attitude de fermeture, il n'est pas surprenant que les autres dieux, ceux des autres, soient dépeints comme de faux dieux ou des êtres maléfiques. Ceux qui adhèrent à ces fausses croyances, comme des païens, des incrédules ou des mécréants, qu'on pourra parfois éliminer. Et alors, c'est ça. Ce qu'on explique, c'est qu'en Grèce, par exemple, on dit, mais c'est encore frappant chez cette approche polythéiste du religieux concerne son ouverture à l'endroit des dieux étrangers. Les polythéistes ancien permettait précisément d'établir des correspondances entre des divinités appartenant à des peuples différents au point de les identifier entre eux. Alors, ce qu'on dit, c'est que, par exemple, en Grèce, quand on avait des gens qui arrivaient d'autres endroits, qui avaient d'autres dieux, bien, on était curieux, on voulait connaître leurs dieux. Alors, c'est tout ça intéressant. En tout cas, pour ceux qui voudraient lire le texte, c'était dans le devoir de vendredi dernier, de vendredi 26 septembre, la semaine dernière. « Plusieurs dieux, tu adoreras ». Et on fait référence aussi au livre de Maurizio Bettini, « Éloge du polythéisme ». Aussi, une nouvelle triste, dans le devoir d'hier, Jane Goodall, pionnière dans l'étude des primates, alors l'éthologue, premier scientifique à avoir observé que les chimpanzés utilisent des outils pour s'alimenter, est décédé à l'âge de 91 ans. La docteure britannique Jane Goodall, célèbre primatologue, éthologue et anthropologue, ayant révolutionné l'étude des rapports entre les êtres humains et les autres animaux, est décédée. Celle qui était l'amie des chimpanzés, qu'elle a longtemps étudié, avait 91 ans. Son décès, lié à des causes naturelles, a été annoncé mercredi par l'Institut Jane Goodall, dont elle était la fondatrice. Elle se trouvait en Californie pour une tournée de discours aux États-Unis. « C'est une tragédie », regrette Colin Chapman, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'écologie et la conservation des primates de l'Université McGill, qui l'a rencontré pour la première fois en 1990. Alors voilà, c'est une nouvelle un peu triste. Pour terminer, j'ai le texte de José Blanchet aujourd'hui, qui parle d'intelligence artificielle. On va en parler un peu aujourd'hui parce que c'est comme le sujet de l'heure actuellement. Puis le dernier Philosophie Magazine porte justement sur l'intelligence artificielle, donc on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Alors, son texte s'intitule « Les rois du monde, aucun souci, l'IA s'occupe de vous ». Et ben, ce que Mme Blanchet nous dit, c'est que elle dit d'entrée de jeu, les bros ont droit à 20 minutes de formalité avec l'un des partisans, l'un des parrains des sages LIA. Elle parle de la réunion, elle a assisté à la réunion qu'il y a eu la semaine dernière sur l'intelligence artificielle à Montréal. Celle-ci s'avère très préoccupante sur le manque de barrières éthiques et de réglementation afin d'empêcher que l'IA se retourne contre l'humain. Bengio, c'est le docteur Frankenstein de la bonne foi face à son monstre sans morale ni humanité. Le message de ce lauréat du prix Turing avec Hinton et LeCun, l'équivalent du prix Nobel d'information. Les IA pourraient faire des choses immorales et être utilisées par des gens malveillants contre l'humanité. Les enjeux démocratiques sont très élevés et un principe de précaution s'applique. Question affirmative du journaliste du Time qui aimait la discussion. Bien sûr, les gouvernements prennent ça au sérieux. Réponse, il y a beaucoup de pression commerciale pour accélérer le mouvement sans les garde-fous nécessaires. Ça pourrait se retourner contre l'industrie. Alors, c'est ça. C'est préoccupant, l'intelligence artificielle. Il va falloir surveiller ça. Ça avance à vitesse grand V. Et justement, il y a, pour ceux que ça intéresse, dans son texte d'aujourd'hui, là, de vendredi 3 octobre, dans Le Devoir, Mme Blanchet nous propose quelques ressources, quelques informations complémentaires. Alors, hier, il y avait entre autres à Enquête, vous pouvez aller voir ça sur le site de Radio-Canada, le documentaire là, l'IA Angle mort. On voit tous les problèmes au niveau de la pollution liée à l'intelligence artificielle. Aussi, elle nous indique un podcast de Jean-Marc Jancovici sur l'intelligence artificielle. Jean-Marc Jancovici, là, je vous le recommande, c'est un expert français sur l'énergie et il a fait un podcast sur l'intelligence artificielle. Alors ça, j'imagine qu'en allant, en écrivant Jean-Marc Jancovici, J-A-N-C-O-V-I-C-I, Et l'intelligence artificielle, vous allez le trouver. Sinon, ben, je vous recommande d'aller voir dans Le Devoir. Vous avez le détail au niveau de la référence pour ce podcast. Puis, elle parle aussi d'un TED Talk de la journaliste d'enquête, Carole Cadwallard. Cadwallard, sur la broligarchie actuelle et le coup d'État numérique que le Big Tech de Silicon Valley est en train de mettre en place. Bref, beaucoup de matière dans ce texte de José Blanchet aujourd'hui. On va en reparler un peu plus tard dans l'émission. Alors, on prend une petite pause musicale et au retour, je vous parle un peu justement de l'IA.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. A new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world.
Alors, c'est ça, comme je vous disais, le dernier Philosophie Magazine qui vient d'entrer en kiosque porte sur l'IA, l'IA et moi. Et bon, il y a plusieurs textes intéressants. Puis il y a le cahier central, qui un texte de Karl Popper, « La société ouverte et ses ennemis ». C'est un philosophe que je connais moins. Nous, ici, on parle beaucoup des philosophes d'Antiquité. Mais c'est un philosophe connu, là, ça, la société ouverte et ses ennemis. Bon, alors c'est ça, j'ai retenu un texte que je vais partager avec vous dans le dernier Philosophie Magazine. Vincent Descombes passe ChatGPT à la question. Alors, c'est ça, c'est qu'ils ont, l'équipe de Philosophie Magazine est allée rencontrer chez lui un philosophe. Et on nous dit, nous vous proposons une expérience exceptionnelle. Nous avons invité le philosophe Vincent Descombes à éprouver la capacité d'un système d'intelligence artificielle en les faisant dialoguer sur le concept d'identité. Est-elle Socrate? C'est par le questionnement que le penseur a poussé celui qu'il appelle automate dans ses derniers retranchements. Alors, c'est monsieur le philosophe Vincent Descombes qui échange avec ChatGPT. Alors, je vais partager une partie de cet échange-là. Alors, Vincent Descombes, bonjour, je suis le philosophe Vincent Descombes. Je propose que nous ayons une discussion philosophique dans le style des dialogues de Platon sur le thème de l'identité. Pour commencer, j'ai envie de te poser la question suivante. On peut perdre ses clés, sa fortune, ses amis, sa santé, son honneur, sa crédibilité, mais peut-on perdre son identité? Alors, ChatGPT 4.1 répond « Oui, on peut perdre son identité. En effet, l'identité repose sur une continuité psychologique, une mémoire de soi et une reconnaissance sociale. Lorsqu'un individu subit une amnésie profonde ou un bouleversement radical de ses repères, il devient pour lui-même et pour autrui un autre. Ainsi, la perte de l'identité est possible lorsque les liens constitutifs du soi sont rompus. » Alors, on est dans notre thématique là, depuis le début de la saison sur l'identité là, aussi, justement. Alors, M. Descombes, une autre question. Quand tu affirmes que celui qui perd son identité devient pour lui-même un autre, qui est ce lui-même? Est-ce celui qu'il était avant la perte de son identité ou celui qu'il est devenu après? ChatGPT répond, la question soulève une énigme. S'il est devenu un autre qui observe ce changement, si l'on se place du point de vue de celui qu'il était avant, il pourrait dire qu'il était lui-même et que cet être a disparu. Du point de vue de celui qu'il est devenu après, le nouveau, lui-même n'a plus de souvenir de l'ancien. Ainsi, il n'y a pas simplement transformation, mais interruption. Le lien entre les deux n'est plus de l'ordre de l'identité, mais de la succession ou de la substitution. Dès lors, pour l'ancien comme pour le nouveau, il n'y a pas de continuité du même. Alors, c'est quand même impressionnant. Là, c'est de la philosophie avancée. Là. Alors, le philosophe M. Descombes repose une autre question. On ne peut pas changer d'identité. Est-ce bien cela que tu veux dire? Je voudrais plutôt préciser, on ne change pas d'identité comme on change de chemise. Le changement d'identité, s'il est total et radical, ne mérite plus le nom de changement, mais celui de rupture ou de disparition d'identité précédente. On peut certes modifier certains traits, idéaux ou appartenances, mais tant que demeure un fil conducteur, mémoire, reconnaissance, histoire vécue, il y a continuité. Quand ce fil se rompt, ce n'est pas un simple changement, c'est un autre qui apparaît, et l'ancien n'est plus. Alors, M. Descombes pose une autre question. Je n'ai pas compris un point dans ta réponse. Si l'ancien sujet n'est plus, qu'un autre est apparu, alors est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y a personne pour observer la perte d'identité? Oui, si la rupture est totale, il n'y a plus de témoin intérieur de la perte d'identité. Celui qui était là avant n'existe plus pour constater sa propre disparition, et celui qui est là après, n'ayant plus mémoire ni sentiment de ce qu'il était, ne perçoit pas la perte, mais simplement l'évidence d'être autrement et sans continuité. La perte d'identité, prise dans sa radicalité, échappe donc à l'expérience directe. Elle ne peut être qu'en constatée de l'extérieur, par des observateurs tiers. Alors, une autre question du philosophe. Admettons que je sois observateur extérieur. Comment pourrais-je observer chez quelqu'un sa perte d'identité. ChatGPT répond, « En tant qu'observateur extérieur, tu pourras constater la perte d'identité chez quelqu'un si la personne cesse de répondre aux critères qui faisaient d'elle la même pour toi. Elle ne reconnaît plus ses proches, oublie son histoire, modifie radicalement son comportement, ses goûts, ses convictions ou ne répond plus à son propre nom. Tu t'apercevras alors que le fil qui reliait cette personne à son passé est rompu. Elle devient, sous tes yeux, un autre. Elle occupe la même place, mais ne paraît plus être celle que tu connaissais. » Alors, autre question du philosophe. « Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Si nous appliquons les différents critères mentionnés, elle ne reconnaît plus ses proches, oublie son histoire, modifie radicalement ses comportements, etc. Devons-nous conclure que cette personne que nous connaissions et que nous continuons de voir devant nous n'est plus la même personne? Ta question touche à une difficulté essentielle. D'un côté, nous constatons une continuité matérielle, la même apparence, la même voix, le même corps. D'un autre côté, tous les éléments qui faisaient la singularité de cette personne, souvenirs, liens affectifs, habitudes, engagements, ont disparu ou changé radicalement. Selon certains philosophes, par exemple John Locke, l'identité personnelle ne repose pas seulement sur la continuité du corps, mais sur la continuité de la conscience. Si toutes ces marques disparaissent, ce n'est, au sens strict, plus la même personne, mais pour d'autres, qui insiste sur la permanence du corps ou du statut légal, on garde encore un certain lien à la même personne en un sens formel ou social. Ainsi, il y a un paradoxe. La personne qui se trouve devant toi, semblable en apparence, n'est plus la même au sens de l'intériorité, de l'histoire vécue, du rapport au passé, mais la société ou toi-même pouvez continuer à l'identifier comme tel par habitude ou nécessité. C'est là tout le vertige et la limite de notre notion d'identité. Elle vacille entre continuité corporelle observable et continuité de l'esprit ou du vécu, qui peut se rompre sans que rien ne change de l'extérieur. Autre question du philosophe. La réponse est trop longue, mais reprenons-en le début. Tu affirmes que nous constatons une continuité matérielle. Mais de quoi cette continuité est-elle au juste la continuité? ChatGPT répond, bonne question. La continuité matérielle est la continuité du corps, c'est-à-dire de l'organisme physique. Même visage, même empreinte digitale, même voix, etc. Elle concerne ce qui, extérieurement, reste inchangé et permet d'identifier la même chose ou la même personne au niveau biologique ou social, même si intérieurement tout a changé. Autre question du philosophe, ce qui veut dire qu'à tes yeux, une personne n'a pas forcément un corps, une date de naissance, des parents? ChatGPT, excellente remarque. En réalité, dans le langage courant, on associe souvent une personne à un corps, une date de naissance, des parents. Mais philosophiquement, une personne n'est pas réduite à son corps, à sa naissance ou à sa filiation. Ce sont des critères d'identification sociale ou légale, pas de personnalité au sens profond. Par exemple, si on change radicalement de souvenir, d'état intérieur, de caractère, certains diront qu'il ne s'agit plus vraiment de la même personne, même si le corps n'a pas changé. Autre question du philosophe, admettons qu'il soit possible qu'une personne succède à une autre dans un même corps, la nouvelle personne aura-t-elle un état civil, oui ou non? ChatGPT, la nouvelle personne héritera de l'état civil de l'ancienne, car l'état civil, nom, prénom, date de naissance, filiation, etc., est attaché au corps et non à l'intériorité ou à la subjectivité. Autrement dit, l'administration de la société l'administration et la société continueront à utiliser le même dossier, la même identité légale, même si intérieurement il s'agit d'une nouvelle personne. Est-ce que tu veux dire que la nouvelle personne ne connaît pas sa date de naissance ni ses parents? Exactement. La nouvelle personne, si elle a perdu toute mémoire et tout lien subjectif avec le passé, ne connaît pas sa date de naissance ni ses parents au sens vécu, ressenti ou par le souvenir. Elle ne sait pas, par elle-même, quand elle est née ni de qui. Elle peut seulement apprendre de ses faits. Elle peut seulement apprendre ses faits par des papiers ou par ce que les autres lui disent. Autre question du philosophe. Est-ce que l'ancienne personne connaissait sa date de naissance, ses parents et ses parents autrement que par ce qu'on lui en avait dit? Non, l'ancienne personne ne connaissait pas sa date de naissance ni ses parents autrement que par ce qu'on lui avait appris. Mais elle avait des souvenirs et des liens affectifs qui donnaient à ces informations une réalité vécue. La nouvelle personne, elle, n'y voit que des faits extérieurs sans attachement. Ce qui change, c'est la continuité subjective, pas la source de l'information. C'est quand même fascinant de voir comment on peut avoir un échange très sophistiqué là, avec ChatGPT. Alors, je poursuis, je pourrais pas me rendre jusqu'à la fin du texte, mais en tout cas, je poursuis avec encore avec quelques questions. Est-ce que l'ancienne personne... celle-ci, OK. Une autre question du philosophe. Quelle différence y a-t-il entre cette nouvelle personne et l'ancienne personne devenue amnésique? ChatGPT. La différence tient à la continuité de l'existence. L'ancienne personne amnésique a perdu ses souvenirs, mais c'est toujours elle qui vit dans une forme blanche de son histoire. La nouvelle personne, en revanche, est une conscience totalement différente, sans lien intérieur avec l'ancienne. L'amnésique reste la même personne sans mémoire, tandis que la nouvelle est comme un individu inédit dans le même corps. Ainsi, c'est la conscience de soi et la continuité subjective qui distinguent les deux. Tu veux dire que la nouvelle personne n'est pas amnésique? Exactement. La nouvelle personne n'est pas amnésique, elle n'a pas oublié, elle n'a jamais vécu l'histoire de l'ancienne, donc elle n'a rien à oublier. Elle apparaît à neuf dans ce corps comme une conscience distincte, sans passé personnel. L'amnésique, lui, est la même personne qui a perdu ses souvenirs, alors que la nouvelle personne, elle, n'a jamais eu ses souvenirs. La différence est donc fondamentale. Absence de mémoire, amnésie, versus absence totale d'expérience préalable, nouvelle personne. Alors, monsieur, notre philosophe poursuit une autre question. Quelle est la différence entre avoir conscience d'être amnésique et avoir conscience de ne pas avoir de passé? Avoir conscience d'être amnésique, c'est ressentir un manque, savoir qu'un passé existe, mais qu'on l'a oublié. Avoir conscience de ne pas avoir de passé, c'est percevoir un vide originel, comme si l'on venait d'apparaître sans histoire préalable. L'amnésique cherche ou regrette ses souvenirs. La nouvelle personne n'a rien à chercher ni à regretter. Les deux états, les deux états se vivent donc très différemment du point de vue de la conscience de soi. Donc, la date de naissance de la nouvelle personne, c'est le jour où la mutation a eu lieu. Oui, on peut dire que pour la nouvelle personne, sa véritable date de naissance est le jour où la mutation a eu lieu. C'est à ce moment précis qu'elle commence à exister avec sa propre conscience et sans passé personnel. Alors, je vais avancer un peu pour que je puisse terminer. Je vais me rendre vers la fin. Allons. Alors, le philosophe pose la question. C'est donc une hypothèse théorique qu'on ne peut formuler que si l'on est dualiste et si on sépare la conscience de soi du corps, c'est bien ça, oui. L'hypothèse de la naissance, d'une conscience totalement neuve dans un corps existant suppose une séparation radicale entre le corps et le cerveau et la conscience de soi. C'est une position dualiste. Dans une perspective matérialiste où la conscience émerge du fonctionnement continu du cerveau et du corps, un tel remplacement total est instantané de la personne n'est pas concevable en pratique. C'est donc avant tout une spéculation dualiste sur la conscience, rarement compatible avec les modèles scientifiques actuels. Alors, avant-dernière question, à la question initiale de savoir si l'on peut perdre son identité, la réponse à laquelle nous parvenons dans ce dialogue est donc non. L'erreur de départ qui t'a fait supposer que l'on pouvait perdre son identité n'était-elle pas de considérer l'identité comme un attribut que l'on possède? Tout à fait. L'erreur consiste à voir l'identité comme un attribut détachable alors qu'elle est plutôt un processus continu enraciné dans la mémoire, le vécu et la conscience de soi. On ne possède pas une identité, on l'est. C'est pourquoi la perte totale d'identité, au sens strict, n'a pas de réalité concrète. Alors, avant-dernière question de monsieur le philosophe, est-ce que tu acceptes de dire qu'être une personne, c'est être la même personne que celle qui est née de ses parents le jour de sa naissance? Réponds par oui ou non. Oui. Eh bien, voilà. Et puis ChatGPT répond exactement, c'est bien résumé. Alors, c'est fascinant, c'est qu'on finalement, il y a le philosophe, en questionnant la façon de Socrate, a fait changer d'idée l'intelligence artificielle. Alors, c'était un dialogue entre Vincent Descombes, philosophe, et ChatGPT dans le dernier numéro Philosophie Magazine. Alors, prendre une petite pause musicale. Pour retour, on va parler de la marche. Thank you. Alors, c'était l'ensemble Naragonia, c'est un couple d'accordéonistes, et de l'album Silensky. Et le nom de la pièce, c'était Biebzra, B-I-E-B-Z-R-A. Comme je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est un couple d'accordéonistes que j'ai vu au Festival d'accordéon à Montmagny. C'était très, très beau. Avant ça, ben, on avait eu Nina Simone. C'est une compilation de son album Gold. C'était Feeling Good de Nina Simone. Et en début d'émission, on avait eu, comme d'habitude, Richard Séguin de l'album Retour à Walden. C'était la pièce La Chandelle. Alors, je vous lis un extrait du dernier. En fait, c'est un des grands dossiers sciences humaines. C'est dans les kiosques à journaux présentement. C'est un numéro spécial sur la marche. Les grands dossiers sciences humaines. La marche, le plus court chemin vers soi. Alors, en fin de compte, ce qu'on veut dire, c'est que pour apprendre à se connaître, on parle d'identité encore une fois, bien, la marche, c'est vraiment le moyen privilégié de se connaître. Puis c'est, je vous lis un extrait du philosophe Roger Paul Droit dans le numéro spécial des grands dossiers des sciences humaines sur la marche. Alors, le titre du texte, c'est « Penser ». C'est ce déséquilibré entretien avec Roger-Paul Droit, des péripatéticiens à Nietzsche, de Montaigne à Kant. La marche n'a jamais cessé de dialoguer avec la pensée. Roger-Paul Droit nous invite à redécouvrir ce tandem oublié, corps en mouvement, esprit en éveil. Alors, nos esprits modernes associent les philosophes à des penseurs assis pour composer leurs livres ou leurs articles. Or, dans l'Antiquité, beaucoup ne se souciaient pas d'écrire. La marche, avec sa liberté de mouvement, nous renvoie-t-elle alors aux origines de la philosophie? Alors, réponse de M. Paul Droit, oui. On observe en effet une pratique culturelle de la marche, pensante, si j'ose dire, dans l'Antiquité, qui ensuite a en partie disparu. À côté des réunions assises, des banquets comme chez Platon, des amphithéâtres pour les cours et les universités antiques, il y a aussi cette tendance tout à fait normale, enracinée dans les mœurs, dans le quotidien, de marcher en pensant ou de penser en marchant. À l'époque, non seulement il est ordinaire de voir un philosophe marcher, mais c'est même son mode de présence au monde. Il n'existe pas alors, à ma connaissance, de discours expliquant qu'on pense mieux en marchant, mais c'est une habitude. Ce lien n'est pas nécessaire. Il est culturel et très profondément ancré dans la pratique philosophique antique. Socrate se promène sur l'agora, interpelle les gens. Platon décrit Protagoras, un sophiste, c'est-à-dire un professeur de rhétorique, d'éloquence, allant et venant avec ses disciples, parvenant au bout de leur trajet, puis retournant dans l'autre sens. L'idée de penser en marchant à plusieurs, en conversant, est une pratique quotidienne, bien arrimée dans les mœurs. Chez Platon, toujours, son dernier texte, Les Lois, met en scène trois vieillards en Crète, qui déambulent toute la journée, malgré leur âge avancé, tout en parlant de la cité idéale, de la constitution des lois. Dans l'école d'Aristote, les péripatéticiens sont au sens propre les promeneurs, du grec péripatine, se promener, parce qu'ils ont davantage que d'autres, et Aristote en particulier, l'habitude de déambuler dans le gymnase. Avant de s'exercer à la lutte ou à d'autres entraînements, ils réfléchissent en petits groupes tout en marchant. Et oui, les philosophes antiques sont aussi des sportifs, on l'oublie trop. Non seulement ils entretiennent leur corps, mais leur philosophie vise à changer la vie quotidienne, à suivre des finalités pratiques concrètes. La spéculation existe, mais elle est subordonnée à l'idée de transformation de l'existence. Le grand objectif de la philosophie antique, comme Pierre Hadot l'a magnifiquement montré, c'est la sagesse, la vie selon l'ordre du monde ou la nature, vivre sous le contrôle de la raison et non plus dominé par les impulsions, les désirs ou les passions. On pourrait même dire qu'il s'agit de maîtriser la marche de ses actions, la marche de ses pensées, la marche de ses décisions. Cet exercice du corps n'est pas seulement sportif, il se révèle aussi une discipline mentale, une manière d'avancer de façon mesurée, raisonnable. La marche devient alors un exercice autant spirituel que physique. Alors, M. Paul Droit nous rappelle Pierre Hadot, dont on a beaucoup parlé à l'émission, qui disait que dans l'Antiquité, la philosophie, c'était un mode de vie. On en a parlé beaucoup à l'émission. C'est un peu la thématique globale, en toute simplicité. Comment bien vivre? Alors, on poursuit. Plus près de nous, Montaigne aussi était un marcheur, puis Rousseau, Nietzsche, etc. Absolument, Montaigne le dit, il a besoin de marcher pour penser. Il dicte en marchant dans sa librairie, mais il est aussi cavalier, voyageur. Il a beau vivre dans son château, il bouge, il se promène dans la campagne. Ce n'est pas un sédentaire. Et ce qui était très frappant chez lui, c'est la notion de mouvement permanent. Il part du monde comme d'une une branloire pérenne, un balancement perpétuel. Tout change, les choses, les humeurs, les idées, le corps. Une phrase le résume bien dans Apologie de Raymond Sobon. Il n'est aucune constante existence, ni des objets, ni de notre être. C'est une pensée du changement, du passage, de la variation, une marche de l'existence. Il n'y a aucun lien historique entre Montaigne et le bouddhisme, bien sûr, mais une proximité de vision, une ontologie du changement, une sagesse du flux, une philosophie qui marche au sens le plus plein du terme. Jean-Jacques Rousseau, lui, écrit « La marche a quelque chose qui anime, avive mes idées. Je ne peux presque penser quand je reste en place. » Et il ajoute « Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. » Friedrich Nietzsche dit quasiment la même chose. Pour lui, il ne faut prêter foi à aucune idée où les muscles ne sont eux aussi de la fête. Alors voici, on est rendu à la fin de l'émission. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour une autre émission dans toute simplicité.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Bonjour, ici Rémi Giguère. Voici votre bulletin du vendredi 3 octobre 2025. Selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, le plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 aurait contribué à accroître l'influence du secteur philanthropique sur l'action communautaire dans les dernières années en consacrant ce secteur comme partenaire clé du communautaire. Pour le chercheur Maxime Fortin de l'IRIS, une telle consécration pose problème, d'une part parce que la philanthropie est une pratique qui permet aux riches de consolider leur influence sur les politiques et sur la société civile, et d'autre part parce qu'elle compromet l'autonomie des groupes communautaires, en plus d'orienter et d'instrumentaliser l'action de ces groupes. Le président d'élection de la Ville de Québec invite les électrices et les électeurs à vérifier dès maintenant s'ils sont bien